Brief Me Weekend, édition du 16 mars 2024.
Dans Brief Me ce week-end, la prise en charge de la fin de vie en France depuis les années 1990, les dividendes, un documentaire poignant récompensé aux Oscars et les origines de la gouaille.
On revient au début.
La prise en charge de la fin de vie en France.
Emmanuel Macron a annoncé un projet de loi qui ouvre la possibilité de demander une aide à mourir, dans un entretien à la Croix et Libération publié dimanche dernier. Il prévoit qu'un patient puisse se voir prescrire, sous condition, un produit létal à s'administrer lui-même. Ce projet de loi sera débattu au Parlement à partir de mai. Le cadre légal sur la fin de vie a évolué depuis les années 1990, en allant vers plus de considération de la volonté des patients dans les décisions médicales les concernant.
Le concept.
La fin de vie désigne la situation dans laquelle se trouvent des personnes qui ont une maladie grave, évolutive, en phase avancée, potentiellement mortelle ou dont le pronostic vital est engagé à court ou moyen terme, expliquait la Haute Autorité de Santé, une autorité publique indépendante, en 2018. Le vieillissement de la population et le développement de maladies chroniques d'une part et les progrès de la médecine d'autre part ont conduit à de nouvelles formes de fin de vie, plus longues, plus médicalisées et plus complexes. Par exemple avec une maladie qui ne disparaîtra pas, mais dont l'évolution est freinée par les traitements, ou dans une dépendance fonctionnelle majeure. La tension éthique en jeu dans les débats sur la fin de vie mobilise la question de la liberté à déterminer soi-même son degré de tolérance à la souffrance et les contours de son destin personnel et celle de notre devoir de solidarité à l'égard des personnes en fin de vie. Résumait le Comité consultatif national d'éthique, une autorité administrative indépendante, dans un avis paru en 2022.
Les dates clés.
1986.
L'essor des soins palliatifs.
Le gouvernement prend en 1986 une circulaire, appelée circulaire Larocque, relative à l'organisation des soins et à l'accompagnement des malades en phase terminale. La circulaire précise et organise les soins que les soignants doivent apporter pour soulager la douleur des patients mourants et prendre en charge leurs souffrances psychiques. Il s'agit du premier texte à encadrer les soins palliatifs en France. De premières unités de soins palliatifs, USP, ouvriront ensuite dans des hôpitaux et, en 1999, une loi consacrera le droit de toute personne malade dont l'État le requiert à accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement. En 2021, la France comptait environ 11 lits hospitaliers en soins palliatifs pour 100 000 habitants, selon un rapport du ministère de la Santé paru en 2023. Les soins palliatifs peuvent aussi être réalisés à domicile. Malgré les politiques publiques mises en œuvre pour développer les soins palliatifs, les avancées demeurent insuffisantes pour donner sa pleine portée aux droits affirmés par le législateur en 1999, selon un rapport du Sénat paru en 2021.
2002.
L'affaire Vincent Humbert.
En 2002, Vincent Humbert, un jeune homme devenu tétraplégique, aveugle et muet après un accident de la route en 2000, écrit une lettre au président de la République pour lui demander le droit de mourir. Jacques Chirac lui répond que le président n'a pas ce droit. Sa mère tente de lui donner la mort en 2003 avec du barbiturique, mais c'est finalement son médecin qui l'aidera à mourir deux jours plus tard en lui injectant du chlorure de potassium. Poursuivi par la justice, ils bénéficieront tous deux d'un non-lieu. L'histoire de Vincent Humbert conduit au lancement d'une mission parlementaire sur l'accompagnement de la fin de vie. Elle débouche en 2005 sur l'adoption par le Parlement de la loi Leonetti, qui introduit l'interdiction de l'obstination déraisonnable des actes médicaux, soit l'acharnement thérapeutique. La loi autorise l'arrêt des traitements inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Cet arrêt peut être le fait du patient en fin de vie ou des médecins, sous condition.
2016.
La sédation profonde et continue.
La loi Claeys-Leonetti, promulguée en 2016, crée de nouveaux droits pour les personnes en fin de vie. Elle ouvre la possibilité aux malades de demander l'accès à une sédation profonde et continue jusqu'au décès, afin d'éviter toute souffrance et de ne pas subir d'obstination déraisonnable. Sont concernés les patients atteints d'une affection incurable, dont le pronostic vital est engagé à court terme et qui présente une souffrance intraitable. Cette sédation est associée à l'arrêt des traitements de maintien en vie. La loi de 2016 précise que la nutrition et l'hydratation artificielle constituent des traitements qui peuvent être arrêtés. La loi rend aussi contraignantes pour le médecin les directives anticipées, dans lesquelles sont exprimées les volontés du patient relatives à sa fin de vie, sauf exception. Une mission parlementaire estimera en 2023 que le recours aux dispositions de la loi reste rare. Elle relèvera aussi que la culture palliative peine à se diffuser, les professionnels de santé sont toujours davantage formés à guérir qu'à soigner.
2023.
Pour la mise en place de l'aide active à mourir.
Dans son rapport remis à l'exécutif en avril 2023, la Convention citoyenne sur la fin de vie se prononce à plus de 75% pour l'ouverture d'une aide active à mourir. Elle souhaite la mise en place conjointe, sous condition, du suicide assisté, la dose létale prescrite est administrée par le patient, et de l'euthanasie, elle est administrée par un tiers, comme le médecin. La Convention considère que le cadre actuel de la fin de vie souffre d'insuffisance et que le suicide assisté seul ou l'euthanasie seul ne répondent pas à l'ensemble des situations rencontrées. Parmi les arguments en faveur de l'aide active à mourir, elle estime qu'une telle légalisation mettrait fin aux situations d'hypocrisie, puisque des Français partent à l'étranger pour en bénéficier et que cette possibilité n'est pas accessible à tous les citoyens de manière égale pour des raisons géographiques ou économiques. Dans un avis diffusé la veille de la publication du rapport de la Convention, l'Ordre des médecins s'est dit défavorable à la participation d'un médecin à un processus qui mènerait à une euthanasie, le médecin ne pouvant provoquer délibérément la mort.
Le saviez-vous ?
Le suicide assisté depuis 1942 en Suisse.
Le Code pénal suisse, entré en vigueur en 1942, punit l'assistance au suicide uniquement si la personne qui a prêté assistance a été poussée par un mobile égoïste. De fait, le suicide assisté est toléré dans le pays depuis cette date. Aujourd'hui, la pratique est encadrée et soumise à quelques conditions, dont celle pour le malade de s'administrer lui-même la substance mortelle. Des associations fournissent une assistance au suicide dans le cadre de la loi. La principale d'entre elles, Exit, propose ses services aux personnes atteintes de maladies incurables, de souffrances extrêmes ou encore de polypathologies liées à la vieillesse.
On rembobine la semaine.
Corse. Le gouvernement et les représentants politiques corses se sont entendus sur un projet d'accord prévoyant la reconnaissance d'un statut d'autonomie pour la Corse, a annoncé lundi le ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin a précisé que ce projet allait désormais être soumis au vote de l'Assemblée de Corse, puis nécessiterait une révision de la Constitution. Emmanuel Macron avait proposé en septembre à la Corse une autonomie dans la République.
Haïti. Le Premier ministre haïtien, Ariel Henry, a annoncé lundi la démission de son gouvernement et la mise en place prochaine d'un conseil présidentiel de transition, alors que le pays connaît une crise politique et subit des attaques de gangs. Le chef d'une coalition de gangs avait demandé la semaine précédente la démission d'Ariel Henry, qui assure aussi l'intérim de la présidence depuis l'assassinat en juillet 2021 de Jovenel Moïse, faute de quoi le pays irait vers une guerre civile.
Gaza. Un navire d'une ONG espagnole parti mardi de Chypre a commencé hier à décharger sa cargaison de 200 tonnes d'aide alimentaire dans la bande de Gaza. Il s'agit du premier bateau à livrer de l'aide humanitaire à l'enclave palestinienne, où la crise alimentaire s'aggrave. La quasi-totalité de la population dépend de l'aide alimentaire qui reste insuffisante, a rapporté hier le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Plus de 31 000 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre, a-t-il ajouté.
Médias. Le groupe Altice France a annoncé hier être entré en négociations exclusives avec le groupe de transport maritime CMA-CGM, dirigé par le franco-libanais Rodolphe Saadé, et la holding familiale de ce dernier pour leur céder Altice Média, propriétaire de BFM TV et RMC. Les négociations exclusives correspondent à une période pendant laquelle le vendeur d'une entreprise ne peut pas discuter avec d'autres repreneurs potentiels et permettent de fixer les détails d'un accord.
Russie. L'élection présidentielle russe a débuté hier et doit se dérouler jusqu'à dimanche. L'actuel dirigeant de la Russie, Vladimir Poutine, âgé de 71 ans, est candidat à un nouveau mandat de 6 ans. En cas de réélection, ce serait son troisième mandat consécutif et le cinquième au total. Trois candidats sont en lice en plus du président russe. Pour la première fois, les résidents des régions ukrainiennes revendiquées par la Russie, où se déroulent actuellement des combats, sont appelés à voter.
Ça veut dire quoi ?
Dividende.
Les 1200 plus grandes entreprises du monde ont versé 1660 milliards de dollars, environ 1500 milliards d'euros, de dividendes à leurs actionnaires en 2023, un montant record et en hausse de 5,6% par rapport à 2022. selon un bilan publié mercredi par le gestionnaire d'actifs Janus Henderson. Le dividende est la partie du bénéfice d'une entreprise qui est reversée à ses actionnaires, en rémunération de leur investissement. Si l'entreprise a réalisé un bénéfice pendant l'année écoulée, les actionnaires réunis en assemblée générale décident, sur proposition de la direction de l'entreprise, d'en affecter ou non une partie au dividende. Ce qui reste est alloué aux réserves, qui pourront servir à financer de futurs investissements ou un programme de participation aux résultats des salariés. Les actionnaires reçoivent leurs dividendes à proportion des actions qu'ils détiennent. Une entreprise enregistrant des pertes a la possibilité de rémunérer ses actionnaires en ponctionnant ses réserves constituées les années précédentes.
Ça vaut un clic.
La nature britannique en cliché. Les British Wildlife Photography Awards, un concours qui récompense des photographies de nature au Royaume-Uni, a annoncé jeudi les lauréats de son édition 2024. Le gagnant général est une surprenante photo d'un ballon de football flottant dans l'océan et dont la partie immergée est recouverte de crustacés. Les clichés récompensés dans les autres catégories sont tout aussi étonnants et admirables, à l'image de ceux de la section British Seasons.
Documentaire poignant. 20 jours à Mariupol a reçu le week-end dernier l'Oscar du meilleur film documentaire. Des journalistes ukrainiens de l'agence Associated Press ont filmé les 20 premiers jours du siège de cette ville du sud de l'Ukraine, lancée par la Russie en février 2022. Ils sont alors les seuls reporters internationaux sur place. Disponible sur France 5, ce documentaire, aux images dures mais nécessaires, nous plonge au plus près des combats et du sort des habitants. Il livre aussi une puissante réflexion sur l'impact du journalisme de guerre.
Le parler populaire. Savez-vous parler la gouaille ? France Culture revient dans une courte vidéo sur l'histoire et les particularités de cette manière de parler populaire, dont l'acteur Raphaël Quenard apparaît comme l'héritier. La gouaille désigne une attitude impertinente, mais aussi une manière de s'exprimer avec panache et emphase. Elle vient de l'argot des Halles parisiennes et comporte des sonorités typiques ainsi que des tournures de phrases désuètes, qui mêlent les registres familiers et soutenus.
Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un week-end à vous entourer de bons vivants à Tire-Larigot.
Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Nicolas Filiot et Laurent Mauriac.